Cancun, 1993. Après avoir quitté ma belle France, Paris et mon travail dans la finance pour un voyage de quelques mois, la rencontre avec l'Inde fut très rude, mais tellement enrichissante. Le Népal tellement plus serein avec ses hautes montagnes fabuleuses, le Laos tellement reposant, peut-être trop. Le Vietnam tellement excitant, peut-être trop. La Thaïlande tellement sawadika, cela m'allait mais pas trop longtemps. Me voilà enfin à la découverte de la Birmanie, car à l'époque, c'était bien la Birmanie ou Burma que l'on nommait ce pays. Je ne peux m'empêcher de lire un écrit de Christophe Onodibio dans le petit livre « Le goût de la Birmanie » de 2005. Rencontré lors de plusieurs passages au Myanmar, il écrira un roman d'aventure, « Birman ». Mais cela est une autre histoire. Extrait du goût de la Birmanie. Prise en tenaille entre la Chine et l'Inde, coupée du monde par les aléas de son histoire, sa jungle et ses hautes montagnes, la Birmanie exige beaucoup du voyageur qui sera récompensé de ses efforts au centuple tant la beauté est partout. Pagodes aux flèches ruisselantes d'or, sur fond de ciel bleu et de végétation, couleur émeraude, tissu éclatant, moines en robe de pourpre mendiant au petit matin, sérénité imperturbable des Bouddhas. Merveille auxquelles ont d'emblée été sensibles les voyageurs occidentaux comme Rudyard Kipling, George Orwell, Pierre Loti, Joseph Kessel et bien d'autres. Christophe Onodibio, Birman. Nous avons quitté Bangkok depuis quelques minutes déjà et dans moins d'une heure, c'est Rangoon. À travers le hublot, je vois de la verdure, les rizières à perte de vue et des petites maisons, parfois l'éclat doré d'un temple. Je profite d'un petit extrait d'un ami voyageur et de son poème. Sous un ciel usé par les larmes, la mousson dévalait les champs aquatiques, paysannes qui, de leurs paumes mouillées, teintaient de jaune les frêles graminées. Buffles d'eau foulant de leurs sabots englués les rizières embrumées, joie évasive d'une nature généreuse où horizon et distance semblaient dévisés. Poème de Thierry Collin. De mon siège, visage collé au hublot, je me disais « Où est la ville ? Ses faubourgs. J'ai encore en tête des villes tentaculaires comme New Delhi, des autoroutes, de la lumière, de nuit. Mais ici, rien. »
Ça y est, enfin.
Nous y sommes. Un peu secoué, je vois au loin ce qui ressemble à un grand aéroport, comme un jouet. L'arrivée à l'aéroport est invraisemblable quand on vient de Bangkok. Petit aéroport désuet avec quelques avions quadragénaires sur le tarmac envahi d'herbes qui semblent abandonnées par les vols internationaux. Au contrôle des identités, je suis à l'aise tout seul dans ma file. Celle des étrangers et la préposée aux douanes copie soigneusement mon nom exotique devant un militaire distrait qui se gratte l'oreille avec son crayon. Le passage à la douane n'est que sourire et gentillesse, ce qui promet un séjour peut-être agréable. Pourtant, il n'y a que des militaires partout, pas d'électricité, des locaux délabrés et sombres. Mais étonnamment, le sourire est au rendez-vous. De l'autre côté, c'est déjà la cohue autour du tapis roulant. Trois porteurs se présentent pour ma petite valise et ça va en empirant. Les taxis ont envoyé leur émissaire. Dans le brouhaha ressortent les mots dollars americano, c'est normal, on me prend pour un américain. Ça ne me dérange pas de me faire prendre pour un américain et je ne veux pas leur expliquer quoi que ce soit d'ailleurs. Et dehors, le soleil de 10 heures tape déjà comme un marteau. La lumière m'aveugle. Des petits marchands proposent de l'eau en bouteille, des graines de tournesol et le bétel national, dont les chauffeurs de taxi sont de grands consommateurs. La chasse aux clients bat son plein et le plus hardi des chauffeurs s'empare de ma valise pour m'emmener dans son carrosse. C'est un ancien marin. Il se débrouille autant que moi en anglais. Nous pouvons faire vraiment affaire tous les deux, car le compteur n'existe pas. Le tarif de la course est vraiment ridicule. J'entends au loin de la musique étonnamment sereine, qui ressemble à de la harpe comme chez moi en Bretagne. Bon, j'ai mon chauffeur qui m'attend. Il m'invite à monter dans une vieille guimbarde, mais à regarder autour du véhicule, c'est une collection vintage de voitures hors d'âge. À faire l'inventaire intérieur, je vois mieux les sièges crevés et défoncés, la portière gauche qui n'a plus sa garniture. Intéressant de voir la mécanique de verrouillage qui sautille et les bouddhas impassibles collés sur la planche de bord. Mais dans quel pays suis-je ?
Le chauffeur me raconte sur des airs de rock birman. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en peu d'années, le pays s'est retrouvé sous l'emprise d'une junte militaire dirigée par le général Ne Win. Sans scrupule, il faisait les lois pour s'enrichir et favoriser ses affidés, en particulier le scandaleux trafic des licences d'importation de voitures qui lui rapportait des milliers, voire des millions de dollars. Et j'en passe.
C'est bien pour cela qu'à la sortie de l'aéroport, on ne pouvait trouver que quelques voitures américaines délabrées. Ces anciennes gloires rafistolées en taxi était bien pratique pour circuler dans des avenues sans bouchons. C'est mon premier taxi, ma première découverte. Il y a des taxis aux nattes, génie porte-bonheur, d'autres avec des images de Bouddha collées au plafond et les pires, ceux qui n'ont plus de plancher. Le chauffeur vous prévient, ne mettez pas le pied par terre quand je roule. Sage précaution. Mon chauffeur de taxi va devenir de plus en plus précieux pour moi. Il se nomme Komio. Il m'a fait découvrir juste avant le chanteur The Wintout, qui est le Johnny Hallyday local et qui deviendra un ami plus tard. Mais cela est encore une autre histoire. Komio va tout faire pour me trouver un hôtel. Mais avant d'y aller, il lui faut abreuver son réservoir. Une jeune fille en longi aux cheveux noirs tombant jusqu'au mollet attend devant son petit stand de bouteilles de liquide rosâtre. Maquillée de deux ronds blancs sur les joues, nous fait un grand sourire. Nous y sommes, c'est la station-service. Je me permets mon premier mot en birman, Mingalaba. Et elle me répond simplement, Hello sir, how are you? Eh bien, ils parlent tous anglais ici. Après avoir filtré les nombreuses bouteilles pour faire le plein, nous repartons à la découverte de la ville. Je vis Yangon à plein poumon. Cette arrivée de l'aéroport au centre-ville me fascine. Les ambiances, les odeurs, les sons m'influenceront certainement pour plus tard à nos créations musicales. Comio me fait découvrir un autre musicien connu au Myanmar, Satisai. Ces musiques m'accompagneront pendant tous mes voyages en Birmanie. Continuons notre route vers le centre-ville et je vois de la verdure entre des maisons délabrées et souffrant de moussons virulentes. L'humidité et la moiteur me mettent déjà dans le bain. Encore une fois, mon chauffeur me dit que l'unique grande avenue qui nous mène au centre-ville permet à l'armée d'utiliser leurs chars pour gérer d'éventuelles manifestations. Plus tard, on me racontera la révolution de 1988 qui a mis le pays dans l'ombre et fermé au monde entier. Soudainement, je vois au loin ce que j'attends le plus de cette arrivée à Yangon, la Shwedagon, la fameuse, la plus belle pagode au monde. Et je me réjouis à l'idée très vite de me perdre dans ce merveilleux site. Je me rapproche de mon futur hébergement. À l'époque, très peu d'hôtels pouvaient recevoir des étrangers. Les propriétaires n'étaient pas spécialement des privilégiés du système, mais c'était pour eux un bon moyen de survie dont le tourisme allait dans l'avenir s'avérer bénéfique pour le peuple birman. Bon, je vais pouvoir enfin poser mes valises. L'hôtel se trouve en bordure du lac Kandoji, près du centre. Moins délabré que le taxi, heureusement, mais l'eau ruisselle sur les murs quand ce n'est pas sur le lit. Le bon bruissement de l'air conditionné en compétition avec celui de la chambre voisine aux cloisons de contreplaqué nous compose une symphonie particulière. Allez, j'abandonne ma valise et reprends vite mon taxi pour aller à la découverte de la ville, toujours en musique. Et je profite de vous faire part de quelques extraits de romans. Extrait du livre de Kessel lors de sa venue en 1955. Rien n'est plus émouvant que le premier échange avec une capitale exotique dont on ne sait rien sinon les récits et les livres. On ajuste avec bonheur ces notions abstraites à l'éclatante vie que découvrent les yeux et les images qui ne laissent pas comprendre et déchiffrer dès l'abord enchantent l'esprit par tous les riches secrets qu'il se promet de découvrir. Ainsi, à mesure que nous avancions dans Rangoon, je me disais sans cesse, les visages ici prennent un autre sens. Ils ne portent plus l'empreinte ardente et pathétique de l'Inde. La structure des traits, la forme des yeux, la couleur de la peau, la placidité aimable de l'expression. Joseph Kessel, La Vallée des Rubis. La première chose qui vous touche dès l'arrivée dans la capitale, c'est l'élégance de ce peuple et de ces mélanges ethniques qui fait, en ce qui me concerne, le plus beau peuple d'Asie du Sud-Est. Le peuple est pauvre, mais tellement riche intérieurement que cela émeut au plus profond de soi-même. En 1993, la monnaie ne valait pas grand-chose. Il vous suffisait de venir avec une cartouche de cigarettes et une bouteille de whisky et surtout quelques produits de beauté d'Europe achetés à l'aéroport de Bangkok pour faire le bonheur des quelques personnes rencontrées au cours de vos découvertes journalières. Je laisse Komio, mon taxi driver, et je décide de me perdre dans Yangon. Dans l'ambiance assourdissante de la rue, j'entends des brides de musique internationale, tubes des Beatles, et surprise, chanter en birman, car à cette époque, écouter de la musique et voir des films occidentaux est strictement interdit. Les Birmans sont convaincus que cette musique a été composée par des groupes et des chanteurs nationaux. Après ces émotions, je retrouve Komio et il me conseille de partir enfin pour la Shwedagon, car il faut la voir de jour et surtout de nuit. Heureusement, Bouddha est avec moi. Les pluies diluviennes s'arrêtent et le soleil apparaît. Extrait du poème de Thierry Golin, La Shwedagon. La lampe rêvait tout haut qu'elle était pénombre, répandant ses nuances apaisées aux feuilles d'or sur les murs de la Shwedagon, où seul veillait l'intimité. Et l'on voyait ça et là luire les mots chuchotants des derniers fidèles prosternés, tout en prêtant l'oreille lorsque l'on ferme les yeux, les émotions secondent notre pensée. Mon chauffeur, Komio, est enchanté de me laisser à quelques centaines de mètres de la Shwedagon afin de la contempler de loin. C'est magnifique. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Il est 5 heures du soir à l'entrée ouest. Et soudain, le ciel s'obscurcit, chargé d'une nuée de chauves-souris qui, par milliers, avait pris possession du lieu, et pas n'importe lequel. Elles se déplacent en dessinant de longs serpents, se mouvant dans l'espace vers le delta proche de la capitale, pour chasser toute la nuit. Au fil du temps, ces volutes étranges vont se perdre vers l'Irrawaddy. C'est alors que marche par marche, je suis submergé par la beauté du lieu. L'or pur de ce stupa gigantesque qui domine la ville me brûle les yeux, tant son éclat est éblouissant. Étourdi par les cloches et les moines en prière, je suis pleinement apaisé et j'ai l'impression que le monde s'arrête là, juste là, à ce moment précis. Ici, les gens se promènent, prient, pique-niquent, se reposent ou méditent. Les amoureux se retrouvent, les moines discutent, mais prient d'abord. Un lieu de vie où tout semblait en parfaite osmose. 2500 ans d'histoire me laissent bouche bée. On se perd dans ce labyrinthe de stupa, abritant des statues de Bouddha venant de toute la Birmanie. Un jeune guide en freelance m'explique que, tout en haut de l'ombrelle du Zedi, se trouve un énorme rubis qui protège par sa pureté toute la ville et le pays. Dans un pays si pauvre, je me posais la question que tous les touristes de passage se posent souvent. Pourquoi tant d'argent offert à la religion dans un pays si démuni ? Le bouddhisme est une philosophie certainement trop considérée comme une religion. Ses fidèles le pratiquent assidûment. Un gouvernement autoritaire ne peut que se réjouir d'administrer un peuple adepte à 85% d'une philosophie non violente qui prône la méditation. Donner sans penser à recevoir, la réincarnation, la méditation, le karma, tant de choses à apprendre de ce peuple au sourire naturel. Et gratuit. Il me faut trouver le moyen de rester. La meilleure façon de le faire serait de créer une agence de voyage, afin de me fondre dans cette complexe Birmanie, d'y voyager, d'apprendre et de partager. L'agence Gulliver sera créée fin 1994. À bientôt pour de prochaines aventures.